UMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est comment prêcher l'évangile à des enfants. Et aujourd'hui, c'est notre invité Philippe Chassé qui va nous apporter la pensée du jour. Et dans Pasteur, j'ai une question, il répondra également à une question. L'engagement à suivre Christ des enfants a-t-il besoin d'être renouvelé à l'adolescence ? Dans la rubrique Culture et Médias, Aurélie nous présentera l'organisme Royal Rangers. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous.
Bonjour Yveline.
Bonjour Yveline.
Ça va bien ?
Ça va très bien et toi ?
Oui, ça va bien, merci. Philippe, bonjour, re-bienvenue parmi nous.
Merci.
Vous étiez là hier avec nous. Si vous avez manqué cette émission, allez la voir. Vraiment, c'était une émission formidable avec une super rubrique Conseil du coach. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous partager votre passion, parce que c'est vraiment une passion pour les enfants. Je le répète, vous enseignez les enfants depuis l'âge de 16 ans. Vous avez fondé le Club de l'Amitié dans lequel vous avez distribué 10 000 Nouveaux Testaments, c'est ça, 10 000 Évangiles ?
À l'époque, oui.
À l'époque. À l'époque. Rien que ça. Tu t'en souviens ?
Ah, moi, j'étais un enfant, mais
oui. C'était lui. Vous avez produit, vous avez produit des programmes pour enfants, vous en avez traduit d'autres, vous avez formé beaucoup d'églises au niveau du ministère des enfants de l'école du dimanche de l'éducation chrétienne. Vous les avez aidés à se mettre à jour un petit peu. Et puis, aujourd'hui, vous êtes depuis 7 ans, je crois, c'est ça, responsable du ministère des enfants du mouvement des APDC du district du Québec.
Oui.
C'est ça?
C'est un privilège, je parle de ça.
Ah, bah.
Se promener dans... Je fais une église par semaine, puis quand tu vois les églises avec les enfants qui grandissent, ça veut dire qu'il y a de l'avenir.
Ah, amen.
Ils disent une église qui n'a pas d'enfants a une survie de 20 ans seulement.
Ben oui, parce qu'au bout d'un moment, il manque une génération, il y a un trou, en fait.
Oui. Et malheureusement, au Québec, on avait commencé, mais en sillonnant les rues, et les boulevards et les autoroutes. Non. Les enfants de partout, c'est en train de fleurir. Alors, je remercie le Seigneur pour l'avenir
gloire
dans nos
Dieu.
Églises.
Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment prêcher l'évangile à des enfants. Puis c'est vraiment une question, je pense, que beaucoup se posent. Les enfants sont-ils vraiment capables de comprendre de quoi on parle, la croix, Jésus, le péché, etc. Toutes ces choses, ces notions d'éternité. Vas-y, Gwen, tu peux tousser.
Pardon, je suis en train d'étouffer, pardon.
Je t'entends t'étouffer à côté de moi, ça fait mal au cœur, en fait.
Pardonnons, en tout cas.
Merci de me pardonner.
Et donc, Philippe, avec vous dans la pensée du jour, on va en parler tout de suite. Donc, Philippe, le titre de votre pensée est 4-14. Quel titre étrange!
4-14. Pourquoi le 4-14? C'est simple, c'est la plupart des enfants font ils acceptent le Seigneur, ils acceptent Jésus entre 4 et 14. C'est le plus haut taux de, je pense, c'est 80% des enfants de nos églises viennent à connaître Jésus entre 4 et 14. 80%. 80%, ça veut dire, si je fais une campagne d'évangélisation, comme à l'époque, on fait venir un évangéliste, on fait des films, et à l'avant, 80% de la salle serait avancée pour prendre une décision pour Christ. Pouvez-vous vous imaginer D.L. Moody, qui en faisait à l'époque des campagnes d'évangélisation, disait que lorsqu'il a fait un appel, il y avait eu juste 2 personnes et demie qui étaient avancées. Et un homme m'a dit, mais pourquoi 2 personnes et demie? C'est 2 adultes puis un enfant. Mais en réalité, D.L. Moody a dit non. C'est 2 enfants et 1 adulte. Pourquoi? L'enfant a toute une vie devant lui et un adulte, mais rendu où ce qu'on est rendu. À 50 ans, comme moi, je suis rendu à 54, il m'en reste moins. Je suis plus proche à rencontrer le Seigneur que j'étais au début. Mais en réalité, c'est la raison. Parce que l'enfant a toute une vie devant lui. Et on ne peut pas perdre une minute, une réunion, un temps avec les enfants et ne pas leur parler de Jésus. Et souvent, ça revient à la question qu'ils doivent regarder leur vie et à l'éternité. Souvent, on regarde ce que nous faisons ici maintenant va déterminer où nous allons passer l'éternité. Pour un enfant aussi. Si nous ne parlons pas aux enfants, ils ne s'en soucient pas, mais l'éternité est dans le cœur de l'homme. Tôt ou tard, la question de l'éternité va venir dans ses pensées. L'Ecclésiaste 3.11 nous dit, « Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » L'enfant, tôt ou tard, va y penser à son éternité. Nous avons le privilège de les connecter ses enfants à Dieu par Jésus et leur donner ce qui est le plus précieux, l'espoir d'un avenir. Aujourd'hui, dans la société qu'on vit, on n'a pas d'espoir. Parce qu'on regarde autour de nous, puis souvent, c'est la peur qui mène. La peur de mon avenir, la peur de ne pas arriver. Celui qui a composé « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre », c'est Bill Gaither. Bill Gaither a composé ce chant-là lorsque son fils est né. Et lui, c'est la peur qui menait, parce qu'il disait, maintenant j'ai un enfant, qu'est-ce qui va devenir de cet enfant-là dans un monde rempli comme on a aujourd'hui? Et c'était sa peur. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'il a composé le chant, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à cause de cette éternité-là et de cette espérance-là que nous avons, nous devons la transmettre à nos enfants pour qu'ils puissent avoir cette espérance, eux aussi, qu'il y a un Jésus qui est mort pour eux et qui les connecte à Dieu leur Père qui veut leur faire du bien. C'est la meilleure chose qu'on peut donner à un enfant. J'ai toujours dit, mon père ne me laissera pas nécessairement de l'argent, une maison, mais qu'est-ce qui m'a légué était l'éternité, Jésus. Il m'a donné Jésus. Mon père et ma mère m'ont enseigné Jésus. Et à cause de mon père et ma mère, je peux dire, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. N'est-ce pas merveilleux?
Amen, amen. Merci beaucoup, Philippe. L'éternité, c'est quelque chose, on peut se dire, mais les enfants ne pensent pas à l'éternité. Mais si, ils y pensent, parce qu'en fait, les enfants sont confrontés à la mort. Ils peuvent être confrontés à la mort d'une mouche, hein, Gwen? T'aimes beaucoup la mort des mouches.
Je ne sais pas pourquoi tu dis ça.
Je ne sais pas non plus. À la mort d'une mouche, par exemple, mais parfois, ils peuvent être confrontés à la mort de leur chien, leur chat ou d'un être proche, carrément. Et donc, la mort amène forcément cette question de l'éternité, en fait. Et les enfants peuvent se la poser vraiment très, très tôt. On peut être surpris des questions qui peuvent jaillir. Et c'est vrai que c'est un excellent point de départ pour amener les enfants au Seigneur. Et vous parliez d'un héritage. Et on a une citation du jour, je veux tout de suite qu'on puisse l'afficher. C'est une citation de Billy Graham qui a dit « Le plus grand héritage que l'on puisse transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants n'est pas de l'argent ou d'autres choses matérielles accumulées dans sa vie, mais un héritage de caractère et de foi. » Vous approuvez, Philippe?
À 100%. 100%. On se préoccupe souvent de l'avenir de nos enfants. C'est drôle, hein? On est capable de leur apprendre à manger avec une fourchette. Mm-hmm. On est capable, on leur dit « Tu t'assois comme il faut, tu vas porter ci, tu vas faire ça. » Parce qu'on veut qu'ils se comportent bien. Pourtant, quand on arrive avec la foi, on leur laisse le libre choix. Mmh.
C'est vrai.
Leur nourriture spirituelle est encore plus importante que leur nourriture temporelle.
Mmh. C'est vrai.
Mais on fait pas ça. Mmh. Parce qu'on dit, oh, on veut pas brimer l'enfant, mmh. On poussera pas l'enfant. Pousser l'enfant. Mmh. L'enfant entend juste une main qui va lui dire, regarde ce que j'ai pour toi. Et il va rentrer. Mmh. Moi, j'ai été un enfant comme ça, qui a saisi l'éternité quand mon père, ma mère. Et je me souviens de ce mercredi soir-là, assis sur une chaise. Puis c'est une tempête dehors, je me souviens. Et je savais, à cause de l'enseignement que j'avais reçu, si je mourais, j'y allais pas. Je passais pas. Et j'ai donné ma vie à Christ ce soir-là, seul, sur une chaise, avec une tempête. Et après avoir parlé, prié, j'avais une paix à l'intérieur que je savais maintenant que si quelque chose m'arrivait, j'allais dans la présence de Dieu. Ça, c'est, j'étais jeune, j'étais pas vieux. Mais pourquoi j'ai fait ça? Il y a quelqu'un qui m'en a parlé.
C'est ça.
Et c'est l'héritage que mon père et ma mère ont voulu léguer. Et ils nous l'ont légué avec joie. Moi, je l'ai reçu. Et là, je l'ai fait à ma fille aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je crois dans la génération qu'on est aujourd'hui. Il faut se réveiller puis regarder bien comme il faut que nos enfants attendent juste qu'on lui donne une direction.
Et comment on fait justement pour amener l'évangile. Donc, on vous avait parlé de cette tranche d'âge, 4-14 ans. Déjà, on ne va pas parler de la même façon à des 4 ans et à des 14 ans. Mais comment on fait pour leur expliquer cette histoire, en fait, d'un Jésus qui, en fait, est Dieu, le Fils de Dieu, qui vient sur terre, etc. Ça peut être compliqué pour des enfants. Comment vous faites?
Moi, je crois que Jésus avait la meilleure méthode, c'est des paraboles. Commençons avec des histoires. Et l'histoire va amener qu'on peut, après, l'enfant peut voir, puis un coup, te raconter l'histoire, il va associer maintenant. Jésus, c'est ça qu'il faisait, puis je crois que les enfants aiment les histoires. Mais il ne faut pas cacher. Disons les vraies affaires. Mais en même temps, un enfant de 4 ans, si je lui dis « Jésus veut te laver avec son sang », il va faire ça.
C'est vrai. Même des adultes.
Oui.
Ça va toujours fasciner. Des fois, les enfants sont dans les réunions, puis on est en train de chanter nos chants. Puis « Ah, le sang me couvre
oui. ».
Là, je vois les petits-enfants sont là. Ah, non. Mais pourquoi pas adapter? Jésus, c'est ça qu'il faisait. Ça dit qu'il leur parlait en parabole parce qu'il n'était pas capable de comprendre.
Oui.
Il disait ça à des adultes. Nos enfants sont capables d'apprendre qu'il y a quelqu'un qui est venu les sauver. Il y a quelqu'un qui tu peux leur dire qu'ils sont perdus, mais il y a quelqu'un qui a envoyé son fils pour les trouver. Et cette personne-là, c'est Jésus. Et on peut faire plusieurs... Il y a sur le site Pinterest, il y a beaucoup d'idées là-dessus. Il y a même sur Calvary, il y a le chemin du Romain qui existe. C'est des moutons. Et tu fais le chemin avec chaque mouton, il y a un verset qui t'emmène au salut. Et les enfants commencent à comprendre que moi aussi, j'ai besoin d'être perdu. Parce que si tu dis à un enfant qui est perdu, il va dire « je suis pas perdu, je suis à la maison ».
Oui, c'est ça. Ma fille, dernièrement, on priait et je lui faisais répéter une prière. Et puis à un moment, je disais « merci Jésus parce que tu m'as sauvée ». Puis là, elle me dit « mais maman, pourquoi Jésus nous a sauvés? On n'était pas coincés ». Bon, elle a 3 ans et demi, quoi.
Mais c'est logique.
Mais j'ai profité de l'opportunité le soir pour leur expliquer ça. Juste concernant le chemin romain, Frank, je sais que tu veux parler. Il est disponible sur votre pensée du jour sur le site ENCITV.com, là où vous avez la pensée du jour de Philippe. Il y a le lien en bas. Ça existe en plein de langues différentes. Donc, c'est vraiment un bel outil. Oui, Frank.
Non, c'est pas vrai. Non, je trouve ça excellent, cette émission-là, parce que en attendant Philippe parler, je me souviens, admettons, on apprend un John G. Lake, qui est comme un héros de la foi, si on veut. Il a fait des choses extraordinaires pour Dieu, a porté le réveil à des places. Mais ses enfants qu'il a eus avec sa première femme, qui elle est décédée en l'aidant à servir, ses enfants, à lui, n'ont même pas poursuivi avec le Seigneur par la suite. Tu vois, fait que c'est... Des fois, on est là, on est tellement engagé dans ce qu'on fait en tant que parent. On se dit, ben, justement, j'ai mon ministère ou j'ai ma chose. Et les enfants, c'est comme des fois, tu peux te poser la question, pourquoi il y a certaines personnes qu'ils ont mis au monde, en fait, parce qu'ils semblent être comme juste un trop. Je sais que des fois, c'est pas évident en tant que parent. Des fois, oui, les enfants prennent du temps et de la place, entre guillemets. C'est normal, ils sont là. Mais il faut vraiment prendre ça au sérieux. Puis c'est pour ça que j'en parle. C'est qu'est-ce qu'ils viennent de dire. C'est tellement important de prendre cette prise de conscience-là. Que le soir avant qu'il se couche, de commencer à parler de ces choses-là par rapport à le salut. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Qui est allé sur la croix. Puis moi, mon enfant le plus jeune, il aime ça quand on parle de ça. L'histoire de la croix, il aime ça. Puis il dit, ah ouais, il était sur la croix. Puis, mais ça commence déjà à être à l'intérieur de lui. En fait, ça va produire son fruit en son temps, c'est sûr et certain. Il va avoir 4 ans, là, mais il est déjà conscient de tout ça. Et mon plus vieux, lui, il aime beaucoup Jésus, en fait. Puis là, il voulait prier l'autre soir avec moi en bas avec la musique. Puis il commence à avoir un intérêt qui grandit, mais c'est de prendre la prise de conscience aux parents qui nous regardent aujourd'hui, que vraiment ça les regarde, puis c'est un héritage qui est énorme. Moi, c'est l'héritage de mon grand-père qui a apporté le salut dans ma famille, puis toute la famille aujourd'hui, il y en a beaucoup qui servent le Seigneur, et puis c'est de quoi qu'il n'y a pas de prix.
Vraiment.
C'est énorme.
Vraiment. C'est éternel.
Oui, c'est ça. On va tout être, dans le futur, on va tout être ensemble, puis on va être là. Tu sais, le plan du salut est extraordinairement pensé. C'est vraiment quelque chose. On va tout être ensemble dans 1 million d'années. On va être encore ensemble, mais c'est l'importance de pouvoir l'apporter dès qu'ils sont jeunes. C'est pour ça que je voulais parler de ça. C'est juste prendre la prise de conscience que ça nous regarde, en fait.
Amen. La Bible dit d'éduquer l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et moi, par exemple, même si j'étais dans une famille chrétienne religieuse quand j'étais enfant, il y a beaucoup de choses que je sais aujourd'hui parce que on lisait la Bible ensemble. Il y a des histoires que je connais comme ça, mais que j'ai captées dans mon enfance. Et en grandissant, ben, c'est sûr qu'on commence à se poser des questions. Et là, Dieu, il peut nous révéler, il nous révèle des choses, en fait, qu'on commence à comprendre parce qu'on a grandi, mais qui ont été ancrées en nous.
C'est vrai.
Parce qu'on les a reçues étant enfants. Et la Bible même dit que le royaume de Dieu, vraiment, c'est pour ceux qui sont semblables à des petits-enfants. Ça veut dire que les petits-enfants sont plus qualifiés pour atteindre le royaume de Dieu, parce qu'il suffit que nous, les adultes, on leur ressemble finalement pour avoir accès au royaume de Dieu. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut juste dire, les enfants, ils comprennent pas, parce que c'est facile de dire ça, c'est des excuses que certaines personnes ont. C'est que non, il est trop petit, il est trop jeune, etc. Mais non, l'enfant comprend. Et l'enfant est un être humain à part entière à qui on doit expliquer les choses du royaume. Parce que lui aussi, il a appelé à saisir ses vérités bibliques, son héritage, toutes ces choses-là. On n'attend pas d'avoir 20 ans ou 30 ans pour les saisir. Tout petit, ben, on peut déjà saisir son héritage.
Moi, quand j'étais petit, en fait, ma grand-mère, elle nous faisait dormir avec elle. Et puis, on lui lisait les évangiles. Mon frère ou moi, parce qu'elle ne savait pas lire, en fait. Et elle était catholique. Mais c'était son moyen, non seulement pour elle, de nous transmettre la foi, mais en plus, vu qu'elle ne savait pas lire, c'était l'occasion pour nous de lire pour elle les évangiles. Et moi, je n'ai pas donné ma vie à Christ étant jeune. J'ai vraiment rencontré le Seigneur bien plus tard, à 21 ans. Mais c'était quand même un dépôt qui avait été là, parce que même dans mon attitude, dans ma façon de me comporter à l'école, avec les gens, il y avait déjà les paroles de Jésus qui résonnaient concernant l'amour, concernant le pardon. Toutes ces choses-là étaient vraiment ancrées. Et puis les enfants comprennent plein de choses. Puis il y a un verset qui dit, je ne saurais pas dire comment il le dit, mais tout à l'heure, Philippe parlait des paraboles. Et c'est vraiment excellent d'enseigner les enfants en paraboles. Mais non seulement... Jésus enseignait en parabole, mais il leur disait, mais comment vous ne pouvez pas comprendre, vous? En fait, il expliquait vraiment en parabole, parce qu'il savait que c'était seulement ceux qui avaient un cœur ouvert pour comprendre. Et les enfants, quand on leur explique en parabole, ils ont un cœur ouvert pour comprendre. Et il y a un verset qui explique que tout ce qui est créé, c'est l'œuvre des mains de Dieu. Et c'est bon de parler aux enfants, de leur expliquer en leur montrant. Moi, mon fils, il a toujours été émerveillé en regardant ça. Il disait, non, mais ça, c'est obligé. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé. Ouais. Quand ils voient ça, ils comprennent, ils voient la complexité, finalement, avec leurs yeux d'enfant. Toute la création, tout ce qu'ils voient, eux, ils se disent, waouh, c'est Dieu qui a créé ça.
Amen.
On regarde, l'enseignement ne se fait pas seulement au coucher, ne se fait pas seulement, on voit,
c'est ça.
Une des choses que moi j'ai découvert avec ma fille, c'était au déjeuner, le petit déjeuner. Parce qu'au petit déjeuner, elle n'a pas le choix d'être assise. Et souvent, je prenais un dévotionnel et pendant qu'elle mangeait, on faisait un dévotionnel, ça prenait 5 minutes. Mais 5 minutes par jour peut changer une vie.
C'est vrai.
Mais on n'y pense pas parce qu'on est tellement... Et ce que moi, j'ai trouvé pour les plus petits, faites un apron où ce que l'enfant peut jouer sur son apron sur des choses, des vérités bibliques pendant qu'il mange. C'est une autre manière d'aller chercher l'enfant. Pour moi, je trouve, aller chercher l'enfant, c'est voir où ce qu'il est. Et il est obligé de s'asseoir pour manger son déjeuner.
C'est vrai.
Pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable? Puis, même chose, le coucher, quand il se couche, de leur demander de raconter une histoire. Mais ça se fait aussi dans l'auto.
Oui.
Souvent, on oublie, il y a des fois les Bibles audio.
Oui.
Maintenant, il y en a des animés. Vous entendez des bruits, vous entendez Jésus parler, un disciple parler. Mettez ça en descendant à Québec. Ça prend 2h30 à aller de Montréal à Québec. Mais pourquoi pas faire un chapitre d'un... l'enfant entend ça.
Oui.
L'enfant, ce qu'il entend... Moi, je me souviens, ma fille, je sais pas si c'est vos enfants qui sont comme ça, est auditive. Puis moi, des fois, je me dis, regarde-moi quand je te parle. Et puis, elle me regardait, elle me dit, elle me répétait tout ce que j'avais dit. Je dis, mais comment ça fait? Ben, je t'entends. Puis là, pour moi, dans ma tête, c'était comme, non, faut que tu me regardes. Là. Et c'est là que j'ai commencé à dire, oh, ça veut dire que l'oreille, mais l'oreille du cœur aussi est toujours ouverte.
Ah, oui.
Qu'est-ce qu'on leur donne dans l'auto? Qu'est-ce qu'on leur donne à la maison? Qu'est-ce qu'on leur donne autour de nous en allant à l'église? Et combien de parents j'ai vu dans, dans l'auto en allant à l'église, tout ce qui se dit, c'est pas tout à fait ce qu'on veut entendre à l'église. Mais l'enfant l'entend.
Ouais, ouais.
Donc, pour moi, je trouve chaque occasion d'apporter Jésus de différentes façons, créatives ou non, fais un gâteau, puis fais-lui écrire dessus. C'est quoi ton verset que t'aimes? C'est quoi? Mets-moi un dessin en crémage de Jésus. Là. Il y en a qui n'aimeront pas parce que c'est du sucre. Mais écris Jésus avec tes carottes. Mais l'idée en arrière, c'est toute occasion.
Oui.
C'est la Bible, elle dit prêche l'évangile. Et hors contexte, mais prêche l'évangile en temps. Mais moi, je crois que tout autour de nous, l'automne, tu fais des feuilles, là, parle de la création, fais-y faire, puis on loue Dieu avec des feuilles, comme les arbres vont louer Dieu. Et plus qu'on le fait avec passion, plus l'enfant, parce que c'est ça, prêcher l'évangile, mais c'est pas juste l'asseoir puis lui dire Jésus est venu.
C'est ça.
C'est plus que ça. C'est tous les moments de la journée sont importants. Pour moi, en tout cas. Puis c'est qu'est-ce que j'ai découvert avec les enfants, ils sont juste prêts. Mais quand, on ne sait pas.
Oui, ça, c'est vrai. Ils sont doués pour nous prendre de cours.
Mais ils veulent apprendre.
Oui.
La Bible a dit l'enfant laisse déjà voir par son enfant, c'est ce qu'il voit plus tard.
Mon fils, il a une mémoire auditive aussi comme ça, et des fois il joue à sa Xbox là comme ça, puis mais après il est capable de ressortir tout un passage d'une prédication de Marcelo Tunassi, une limite et tout ça. Non, c'est vrai. Et je me souviens que quand il était plus jeune, il voulait pas aller à l'école du dimanche. Il a 13 ans, il voulait pas y aller. Il voulait rester dans la salle avec moi, mais il amenait sa console comme ça. Moi, je préférais qu'il vienne, qu'il ait sa console. Mais n'empêche qu'après, il me disait, mais il a dit ça, le pasteur. Alors que des fois, on s'en rendait pas compte. Pour moi, pour les gens, il est en train de jouer, mais ils entendent l'évangile au moins et baignent dedans. Et des fois, ils sont en train de faire d'autres activités. Plutôt que de les brimer, finalement, à leur dire, ah bah, écoute, ou fais ci, ou fais ça. Peut-être qu'ils font leur activité, mais on met des chants de louange, on met une prédication, tout ça. Puis ils ont toujours les oreilles, ils entendent tout, les enfants.
Mais c'est vrai ce que vous dites, c'est que de prêcher l'évangile, c'est pas arriver là, repends-toi, tu as péché, tu as ci, tu as ça. On doit vraiment adapter et prêcher l'évangile, c'est aussi, il y a tout ce qui a été dit, mais il y a aussi le prêcher par notre attitude, par la façon dont on se comporte, par notre capacité à pardonner quand ils vont faire des erreurs, des bêtises, notre capacité à être compatissant, notre capacité à être aimant, notre capacité à être à leur écoute, etc., etc. Toute cette façon de faire, en fait, qui fait qu'on leur prêche l'évangile au quotidien, du matin jusqu'au soir, par notre attitude. Et vraiment, il ne faut pas se limiter justement à lequel il y a un temps dans la journée uniquement qui est réservé pour ça. Et puis là, on va parler de Jésus, puis là, on va prier, puis là, ben, on peut faire des cultes familiaux et tout ça, c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'il y a autour, en fait? Et c'est vrai que c'est vraiment dans le quotidien qu'on peut vraiment amener ça. Et on a fait un petit sondage auprès de vous, chers téléspectateurs. Nous vous avons demandé sur notre chaîne YouTube, selon vous, à quel âge est-il préférable de donner sa vie à Christ? Vous avez été 33% à dire avant l'âge de 8 ans, 22% entre 8 ans et 13 ans, 37% entre 14 ans et 18 ans et 9% après l'âge de 18 ans. Et en fait, quand on lit les commentaires, parce qu'on voit que ça se tient quand même, il y en a plusieurs qui le voient quand même. 37%, c'est quand même la majorité, 14-18 ans, quand même plus tard. Mais quand j'allais lire les commentaires, en fait, beaucoup de personnes disaient en gros, il n'y a pas d'âge. Puis c'est vrai, il n'y a pas d'âge parfait. Mais le plus tôt, c'est le mieux.
Le plus tôt est mieux. Candidat pour la perdition éternelle aussi.
Ça dépend de l'âge.
La conscience qu'il a du bien et du mal, il faut le dire aussi, parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas ça.
Ça montre qu'on est vraiment dans l'erreur avec les statistiques que Philippe montrait tout à l'heure.
Mais
parce que 14 ans, et puis là, la majorité pense que c'est 14, tu vois. Déjà, on a une mauvaise stratégie.
Exactement. Et puis, justement, Philippe, on a reçu une question dans Pasteur, j'ai une question de Joyce du Congo qui a demandé si l'engagement à suivre Christ des enfants a-t-il besoin d'être renouvelé à l'adolescence. Donc, vous nous parlez des 4-14 ans qui sont des bons terrains, mais un enfant qui reçoit Christ à 4 ans, est-ce qu'arrivé à l'adolescence, il n'aurait pas besoin justement de renouveler cet engagement? Est-ce que cet engagement est vraiment valable si jeune?
Quand j'ai reçu la question, la première chose qui m'est venue, c'est, dans le fond, elle a deux volets. La première, c'est si l'enfant a le fruit d'une repentance. Et la deuxième, si l'enfant n'a pas le fruit d'une repentance.
Oui.
tant et aussi longtemps qu'un enfant ne manifeste pas par ses actions un fruit de repentance, il s'est engagé d'élève, mais pas du cœur.
Oui. Mmh.
Il peut avoir répondu à un appel au salut par émotion, mais non par conviction. La Bible dit dans Matthieu 7, 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Jésus s'adressait aux gens et parlait des scribes, mais c'est aussi vrai pour quiconque. Si un enfant n'a pas le fruit, nous continuons à le considérer comme une âme qui a besoin de salut.
Mm-hmm.
Moi, je crois, dans mon cas, c'était graduel. Par contre, si un enfant manifeste une repentance, c'est 1 Corinthiens 13, 11 qui répond bien à cette question. C'est Paul, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Le langage et la compréhension du salut s'adaptent à l'évolution de l'enfant. C'est Jésus qui l'a dit, le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc même un enfant. Il s'adapte à l'âge et au niveau d'apprentissage de l'enfant. Et on le voit avec Samuel, l'émission d'hier, on a entendu Gwen en parler. Dans l'Ancien Testament, ça disait, Samuel ne pouvait même pas différencier la voix de Dieu et celle d'Élie, le sacrificateur. Il a fallu que Élie lui enseigne à dire « parle, car ton serviteur écoute ». Parce qu'il ne savait même pas que c'était Élie ou c'était Dieu.
Il ne savait pas différencier, oui.
Mais cela a changé, parce que après, on ne voit plus jamais Samuel s'adresser à Élie. Il l'avait appris. Puis même si Dieu lui a confié un message d'adulte, Samuel a reçu un message d'adulte en tant qu'enfant. Il a été capable de le transmettre à Élie. Après cela, nous ne voyons plus Samuel jamais douter. Il s'adresse à Dieu lui-même, puis Dieu a développé une relation avec lui. En évolution. Et c'est ça que moi, je crois qu'on oublie. On voit pas David, Samuel ou Joseph ou Jérémie, et on les voit seulement évoluer et apprendre, mais on les voit jamais renouveler un vœu.
Donc, en fait, si je comprends bien, si l'enfant a réellement vécu vraiment la nouvelle naissance, peu importe l'âge qu'il avait, qu'il a vraiment expérimenté le salut, et c'est pas nécessaire de le renouveler puisque finalement l'engagement est valable encore, mais on doit avoir une progression, on doit avoir une évolution.
Le fruit est là.
Oui.
C'est ça qu'on regarde, s'il y a un fruit. S'il n'y a pas de fruit de repentance, il n'y aura pas d'évolution. Il va y avoir un fruit inverse. Mais quand on voit un fruit, l'évolution, c'est comme un fruit. Le fruit grandit petit.
Oui.
On le voit, surtout si c'est la saison des pommes, on les voit et on les... Il n'y a personne qui a été voir la pomme et dit « on va renouveler ». Non, le fruit a grandi. Le salut, c'est comme ça dans le cœur de l'enfant. Il était placé, c'est un fruit qui pousse, qui grandit. Puis c'est Dieu qui le fait croître. Ça. Mais il faut absolument qu'on discerne avant. Alors, les gens disent, ben, il faut qu'ils renouvellent. Peut-être, observez si avant, il n'y avait pas un fruit de repentance.
Oui, c'est ça, en fait. La différence est vraiment là. Il faut prendre le temps donc de savoir être capable de déterminer si l'enfant a vraiment un fruit, porte vraiment du fruit de la repentance.
Ça se fait poser la question à l'enfant, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? S'il n'est pas capable de répondre, il n'est pas... L'autre, obéis-tu? On doit voir s'il obéit à ce que Dieu dit. Puis, est-ce qu'il est capable de comprendre que ses péchés, il se repent? Est-ce qu'il demande pardon ou ça ne le dérange pas? Quand l'enfant, ça ne le dérange pas de mentir... Je me souviens, je suis dans une éducation chrétienne, puis je suis en avant en train de parler, puis l'enfant me regarde, puis elle vient de faire quelque chose. Je lui dis, tu viens de me mentir? Elle me regarde, ben non. Je dis, mais c'est impossible, tu viens de me mentir. Tu sais que c'est mal. Elle dit, non, je savais pas que c'était mal. Je dis, ben voyons donc, c'est impossible, tu sais pas, je connais tes parents, ils t'ont enseigné à quelque part. Et elle, aucune culpabilité.
Ah oui. Donc ça, c'est un signe que l'engagement n'a pas à être renouvelé, il a juste à avoir lieu. En fait, l'engagement n'a pas eu lieu encore.
Le dernier, tu vas le voir si l'enfant aime Dieu. Un enfant qui aime Dieu, ça se voit.
C'est vrai.
Il peut, mais quand tu le vois, il y a un amour pour Dieu. Là. Et c'est là qu'on doit, moi je crois plutôt, cultiver, arroser l'enfant qui aime Jésus. L'autre, c'est pas pareil. Lui, il faut que je l'emmène à la nouvelle naissance.
Okay.
Et il y en a, c'est plus tard. Il y en a, là, c'est avant. Mais c'est sûr et certain, la Bible a dit tous vont avoir à faire un choix un jour ou l'autre.
Oui, exact. Super réponse, très complète. J'espère, Joyce, que vous avez eu votre réponse. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse pasteurjayunequestion@enci.tv. On continue maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Aurélie, je me tourne vers toi maintenant. Tu nous présentes ton organisme. On est dans le thème des enfants. On continue avec les enfants. Royal Rangers.
Yes.
Royal Rangers.
Je pourrais pas le dire aussi bien que toi, Frank. Mais je vais essayer de dire Royal Rangers.
Ouais, c'est bien.
Ouais, wow. C'est
voilà. Bravo.
Je me suis concentrée.
Qu'est-ce donc que cet organisme, Aurélie?
Bon, on va parler de scoutisme évangélique. Donc, c'est un mouvement, en fait, international de scoutisme au service des églises évangéliques. Et en fait, la vision de Royal Rangers, c'est d'amener les
enfants... Tu peux le dire à la française.
Rangers. Donc, la vision, en fait, c'est d'amener les enfants à Jésus-Christ. Il y a trois pôles. Amener les enfants à Jésus-Christ, garder les enfants en Jésus, dans l'Église, et les rendre prêts à servir. Alors, c'est un mouvement international qui a commencé, qui a été fondé aux États-Unis en 1962. Et dans les années 80, mais il s'est répandu un peu en Europe, en Angleterre, en Allemagne. Et depuis 1989, il est aussi en France. Il a commencé à Dieppe. Et en France, en fait, on va plus parler du groupe de France aujourd'hui. Il y a 14 groupes locaux. On les appelle des unités en France. Et aujourd'hui, ils sont environ 370 membres. Et chaque groupe, en fait, est rattaché à une église locale. Et dans l'église, il y a des responsables chrétiens engagés qui gèrent tout ça.
C'est super.
Donc,
hein.
Ouais, c'est vraiment quelque chose de très bien pour les plus jeunes. Et en fait, l'association est vraiment ouverte à tout le monde, quelle que soit ta confession, quel que soit d'où tu viens, c'est tous les enfants et les adolescents. Il n'y a pas de distinction sociale, d'origine, etc.
C'est pas réservé aux enfants chrétiens, donc.
Non, c'est pas réservé aux enfants chrétiens, pas réservé aux enfants d'une église évangélique, pas du tout. Mais vraiment, c'est ouvert à tous. En fait, comment il fonctionne? Il fonctionne avec un programme éducatif. Et le but du programme, ça vise vraiment à ce que les enfants aient un développement équilibré. Et il y a quatre domaines auxquels il s'attaque. C'est le domaine physique, intellectuel, spirituel et le domaine social. Donc, il travaille vraiment dans ces quatre domaines-là avec les enfants. Et quand on regarde un peu comment ils fonctionnent, ils ont un emblème. Et là, sur leur emblème, on peut voir différentes choses. On peut voir des signes. Vous voyez, il y a des signes, il y a des étoiles sur l'emblème. Et chaque chose a sa signification, en fait. Les quatre points jaunes... En fait, ça parle de tout ce qui est croissance. Je vous ai dit, il fonctionne dans quatre domaines. Mm-hmm. Et c'est ça qui est mis un peu en avant ici. Au niveau des quatre points jaunes, tout ce qui est croissance, donc physique, intellectuel, spirituel, social, c'est ce que ça représente. Il y a aussi les quatre points rouges que vous pouvez voir. Ben là, ça parle des bases bibliques. Le salut, le Saint-Esprit, la guérison, le retour de Jésus. C'est comme ça qu'ils l'ont illustré. C'est ce qu'ils voient avec les enfants. Les points bleus que vous pouvez voir, les huit points bleus. Mais ça parle des qualités d'un Royal Rangers. Il doit être attentif, il doit être pur, il doit être honnête, il doit être courageux, il doit être fidèle, il doit être poli, obéissant et spirituel. C'est autant de qualités qu'il développe. Et ils ont une règle d'or au sein des Royal Rangers, c'est que tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, mais tu dois le faire aussi pour eux.
Ah, c'est
vraiment
bien.
Ce qu'ils enseignent aux enfants. Et leur mot d'ordre, c'est « le Royal Rangers est toujours prêt ». Donc, quand on va là-bas, c'est vraiment une formation, c'est vraiment un camp. Et puis, il y a des responsables au sein de ce groupe-là. Mm-hmm. Et les responsables, ils suivent certaines formations. En fait, pour être responsable, il faut avoir au minimum 17 ans. Et ils suivent des formations de premier secours, surveillants, baignade, c'est ça. Donc, quand les enfants vont peut-être dans l'eau, il y a des personnes qui sont vraiment là pour les surveiller.
C'est bien encadré, quoi.
Oui, c'est vraiment encadré. C'est pas juste qu'on laisse les enfants comme ça. Mm-hmm. Et même en interne, ils ont aussi des formations. Ils ont des camps. Ils ont des camps qu'ils ouvrent à tout le monde. Ils ont des camps pour les formations. Ils ont des camps pour les enfants. Et le but, c'est vraiment de découvrir la vision et le fonctionnement des Royal Rangers. Et puis, c'est d'apprendre aussi des techniques de scout. Et là, d'ailleurs, ils précisent sur leur site que le prochain camp aura lieu du 30 mai au 2 juin à Gaillefontaine, c'est en France. Donc, et puis, c'est moins cher aussi, je trouvais, parce que le prix, c'est de 100 euros.
Ah oui.
Et ça couvrait tous les frais de séjour, nourriture, matériel nécessaire pour la formation.
C'est génial.
Franchement, moi, j'ai trouvé ça.
On a quelques photos, je pense, qui illustrent un petit peu leur activité. On peut peut-être les faire passer.
Oui, on a des photos. Là, c'est des formateurs. Mm-hmm. Donc, c'est des personnes qui
on
sont là
pour encadrer.
On voit la
tenue de scout, hein, vraiment.
Ben, j'allais te poser la question s'il y avait des tenues, des badges.
Ils ont des tenues des écussons. En fait, chaque niveau, pour valider un niveau, on va te donner un écusson. Et il y a beaucoup de tranches d'âge, en fait, qui...
C'est de quel âge à quel âge qu'on peut s'inscrire?
C'est de 4 à 17 ans.
OK.
Et là, en fait, en fonction des âges, si vous voulez, chaque âge a son nom et a sa façon de fonctionner. Mm-hmm. Par exemple, les 4 à 5 ans, on les appelle les flèches de feu. Et eux, qu'est-ce qu'on les enseigne quand il y a...
Ça te plaît, hein?
On les enseigne les rudiments du scoutisme à travers la thématique de l'âge de Noé. Donc, en fait, chaque tranche d'âge a vraiment des livres adaptés aussi pour chacun, avec
génial.
Des dessins, etc. Mm-hmm. Et pour les 4-5 ans qui sont des flèches de feu, ben eux, c'est vraiment les rudiments, c'est toutes les petites bases. Et on se base sur l'arche de Noé pour pouvoir enseigner ça. Maintenant, il y a les 6-8 ans, et eux, on les appelle des pionniers. Donc, qu'est-ce qu'on les apprend, eux? On apprend les 8 points de l'étoile bleue. Donc, on a parlé tout à l'heure du caractère qu'ils doivent développer. Mais ça, on apprend au niveau des 6-8 ans. Et là, il faut qu'ils puissent développer mais ces qualités-là qui lui permettent vraiment de fonctionner. Et là, comment on fait pour leur enseigner? Ben, ils utilisent des animaux différents qu'il va voir dans son carnet. Il y aura des animaux. Et sur la base des animaux, comment ils se comportent. Mais là, on va pouvoir enseigner à l'enfant tous ces points de son caractère qu'on a envie de développer. Et puis, il y a les messagers. Les messagers, c'est de 9 à 11 ans. En fait, le messager va pouvoir s'engager, approfondir ses connaissances grâce au manuel aussi pour son âge. Donc là, on est déjà plus ou moins grand, l'enfant grandit. Uh-huh. Et là, l'enfant peut déjà aussi se dire, OK, ben moi, je veux m'engager pour poursuivre là-dedans. Les aventuriers, c'est des 12 à 14 ans. Donc lui, il est déjà pas mal équipé. Il est un peu plus autonome et lui, on commence à lui donner quelques responsabilités. Donc à partir de 12 à 14, on commence à lui donner des responsabilités. Il peut commencer à surveiller, il peut commencer à faire des petites choses. Et puis le dernier groupe, c'est le groupe des conquérants de 15 à 17 ans. Et eux aussi, c'est pareil, ils sont déjà assez grands et
ils
peuvent déjà
grands,
endosser certaines responsabilités. Et en fait, pour chaque groupe, il y a ce qu'ils appellent des brevets. Donc, c'est comme si les enfants passaient des tests. Mm-hmm. Et quand tu as réussi ton test, on te donne un écusson. Mais c'est ça qui montre.
C'est vraiment comme chez les scouts.
Voilà,
tu
as réussi.
Vous y connaissez peut-être plus en scout que moi, Frank. C'est ça, c'est
ce qu'il faut, mettre
d'accord.
Les écussons.
Voilà,
des
c'est comme ça. Tu passes des petits.
Tu dois allumer ton feu.
T'inquiète, tu connais rien au scout, c'est bon. Le cliché du feu, là.
Ouais, c'est merveilleux.
Ah, c'est
donc,
génial.
Ouais, c'est vraiment bien. Et puis, il y a des camps, comme on a vu mm-hmm. sur les photos, qui sont mis en place. Et en France, en fait, il y en a pas mal dans différents coins de la France. Mm-hmm. Et sur leur site, en fait, on retrouve des contacts, on retrouve aussi des lieux mm-hmm. où est-ce qu'ils sont implantés. Donc là,
leur
les
site,
personnes...
c'est quoi RoyalRangers.fr, c'est
oui,
ça?
Oui, RoyalRangers.fr. Mm. Donc, c'est ça. Rangers, il a S. Parce que...
Ah oui, Rangers.
Ouais, donc c'est ça vraiment, c'est quelque chose que on peut recommander surtout à cause du but parce que ils ont constaté que à l'adolescence les enfants délaissaient des églises
oui.
et ils ont vraiment eu à cœur de proposer des activités aux enfants mmh. qui font que non seulement ils pourront eux aussi évangéliser parce que dans les camps comme on a vu c'est ouvert donc tu peux ramener tes amis qui sont pas forcément chrétiens mmh. et eux aussi en apprenant ben ils vont pouvoir découvrir la parole parce qu'ils sont attachés à des églises locales. Donc, c'est vraiment très bien. C'est à recommander à tous les parents.
Ah, vraiment, c'est super. Mmh. Qu'en pensez-vous autour de la table? C'est génial.
Moi, c'est l'élément qui est le fun, c'est qu'ils sont dans la nature.
Mmh.
Et la nature parle d'un créateur.
Oh, mmh. C'est vrai, ça. C'est vrai. Amen.
Quand
Amen.
Tu t'en vas dans la nature, tu ne peux pas ne penser qui a créé toutes ces choses-là.
Mmh.
Alors, moi, je trouve ça formidable.
C'est génial.
Moi
hein.
aussi, j'aime bien.
Ouais, c'est sûr, je verrais trop tes fils faire ça.
Ah, ils feraient des camps et des trucs. Et des... Ouais, c'est ça.
Ils allumeraient des feux.
Comme ça. Il y aura la pêche. Ils feraient du cuir de poisson.
C'est vraiment génial parce que c'est vrai, il y a plein de camps, il y a toutes sortes de camps. Et puis c'est vrai qu'en plus, je ne connais pas toutes les cultures de tous les pays, mais en France, les camps d'été, etc., c'est c'est quand même très répandu en colonies de vacances, etc. Et là, les envoyés, ils vont faire des activités qui sont vraiment géniales, qui sont ludiques. Mais en plus, on va leur enseigner des choses de la Bible. Leurs amis ont l'opportunité de se donner au Seigneur, etc. Et je suis sûre qu'il y a plein d'enfants, même de parents chrétiens, qui se donnent au Seigneur dans ce genre de regroupement. Donc moi, je trouve ça vraiment génial. Chers parents, on recommande. Philippe, merci encore infiniment d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous, de nous avoir partagé votre cœur, votre passion pour les enfants. Et je crois vraiment à la maison qu'il y a des parents, des moniteurs, il y a un feu qui s'est allumé dans votre cœur. Et ne laissez pas éteindre ce feu, vraiment. Continuez, persévérez. Je rappelle le site e-education, c'est ça,
oui. .ca? Non, c'est e-education. Mettez-les sur votre site parce que c'est DQAPDC.
Ah, OK. D'accord, on vous le mettra en bas de la pensée du jour de Philippe. Comme ça, vous pourrez cliquer sur le lien.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit surtout. Donc, plein de ressources extraordinaires. Quant à nous, on va se retrouver demain. Comment vaincre ma timidité sera notre thème. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec Cospiel qui nous a partagé son témoignage. Merci à tous. Merci Philippe et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.